93. Voici Luc Lavoie.
Luc, toi qui connais bien la politique canadienne, il y avait une élection dans une autre province hier, dont on s'occupe pas beaucoup parce qu'il y a moins de monde qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais, d'ailleurs, te rappelles-tu qu'il y a un député au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à un moment donné, André Harvey, qui avait suggéré qu'on devienne la 11e province?
Ça, je me souvenais pas. Ouais. Mais je connaissais bien André Harvey, mais je me souvenais pas de cette idée géniale qu'il avait eue.
Ben lui, il voulait l'autoroute dans le parc des Laurentides, puis il a dit pour que ça fasse partie du réseau national, donc subventionnable par le fédéral, faut qu'on devienne une province.
C'est franchement, il manquait pas d'imagination, notre André. Hein?
Il a fini par trouver ça plus futé de vendre son âme à Jean Chrétien en échange de l'autoroute.
Et voilà.
Bon, mais c'est l'île du Prince-Édouard, c'est bizarre.
L'île du Prince-Édouard, as-tu déjà été à l'île du Prince-Édouard?
Oui, j'ai été faire un tout petit tour. J'ai passé le pont de la Confédération, je pense que j'ai passé une heure, puis je suis revenu.
Ah bon, parce que moi je suis un habitué. Étant Rimouskois, là, quand ma famille, mon père, voulait nous amener en vacances, là, les trois enfants, puis la tante, puis tout ce qui venait avec, l'auto était presque écrasé au sol, là, tellement c'était lourd. Puis on s'en allait à l'île du Prince-Édouard à partir de Rimouski, ça devait être un bon 6-7 heures pour se rendre au traversier. Puis là, on prenait le traversier, puis là, on arrivait, puis évidemment, l'île du Prince-Édouard, c'est moins que 150 000 habitants.
Ouais.
Okay? C'est vraiment, là, faut mettre ça en propos. Tu sais, c'est rien, là.
Ouais.
En plus, c'est très peu peuplé.
Il y a des patates.
Pardon?
Des patates.
Ah, ils sont des producteurs de patates. Essentiellement, leur économie, c'est pas bien compliqué. Un peu de pêche, beaucoup moins qu'on pense, bien que c'est là qu'on trouve le plus d'huîtres, là, les fameuses huîtres Raspberry Point puis les Malpec, ça, c'est tout à l'île du Prince-Édouard. Il y a les pommes de terre là, qui se vendent sous toutes sortes de formes. Là. McCain les transforme en frites congelées, tout ce que tu veux. Puis il y a le tourisme. Puis le problème du tourisme, c'est qu'il dure 8-10 semaines par année. Puis le tourisme s'oriente essentiellement autour de la section nord de l'île du Prince-Édouard, où tu trouves des plages comme qui sont littéralement comparables à ce que tu trouves dans les îles des Caraïbes. C'est d'une beauté extraordinaire. Maintenant, revenons à la politique. C'est une province très conservatrice dans sa façon d'être. Ils n'ont pas une scène, entendons-nous. Ils n'ont pas une scène. Ils vivent essentiellement des transferts de paiement du gouvernement fédéral puis de la péréquation. Ils génèrent rien. Il n'y a pas de richesse qui se crée à l'île du Prince-Édouard. Alors, une élection là-bas, ça peut, tu sais, ça tourne sur un 30 sous. Là. Maintenant, il s'est passé quelque chose de spécial hier.
Oui.
Depuis 1800. Il se passait le pouvoir des conservateurs aux libéraux, avant même que le Canada existe. Ça a toujours été comme ça. Et puis, soudainement, est arrivé le Parti vert, avec à sa tête un personnage qui s'appelle Bevin Parker, qui est, au Québec, ça veut rien dire, mais c'est le descendant direct, donc l'arrière-arrière-petit-fils ou quelque chose comme ça, de George Brown. George Brown, là, c'était un des grands leaders d'opinion en Ontario et c'est aussi le fondateur et le premier éditeur du Globe and Mail.
Ah.
Alors, la famille George Brown, c'est quand tu vas à Toronto, tu as le George Brown College. Tu sais, George Brown, ça fait très, très partie de l'histoire du Haut-Canada. Alors, Bevin Parker, comme il y a d'autres familles, d'ailleurs, il y a d'autres familles ancrées dans l'histoire canadienne qui vivent à l'île du Prince-Édouard, parce que quelqu'un qui veut avoir une vie de tranquille et de belle nature, c'est absolument fantastique. Alors, Bevin Parker est arrivé sur la scène. C'était les libéraux qui étaient au pouvoir. C'était la première fois qu'au Canada, il y avait une province qui était gouvernée par un premier ministre ouvertement gay.
Oui.
C'est con que le nom m'échappe, mais c'est pas... Tu vas me le dire, là. Je l'ai pas sous les yeux, puis je viens de l'oublier, là. Wade McLaughlin, ou quelque chose comme ça. En tout cas, lui, il s'est fait battre dans son comté. Les libéraux, les conservateurs ont pris le pouvoir. C'est un ancien attaché politique du dernier leader conservateur de l'île du Prince-Édouard qui a été élu. Il y a eu 12 comtés. Et les Verts en ont eu 9. C'est la première fois de l'histoire du Canada que les Verts vont être dans une position genre opposition officielle. Mais j'y vois pas grand-chose, là. Honnêtement, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux pas avoir plus vert que l'île du Prince-Édouard. Commençons de même, là.
Ça leur coûte rien d'être vert.
Eux autres, l'île du Prince-Édouard, Myriam, là, c'est vert mur à mur. Je sais pas qu'est-ce que les Verts vont emporter de plus vert, là, mais j'ai bien de la difficulté à voir. Les gaz à effet de serre, là, à moins qu'on me démontre que les patates qui poussent dans le champ font des gaz à effet de serre, je vois pas
tracteurs.
Qu'est-ce qui ferait des... Oui, les tracteurs, imagine, il y a de moins en moins de fermes, elles ont été consolidées, les cultures sont limitées, c'est pourquoi il y a tant de pommes de terre, il y a un certain nombre de fermes laitières, mais on parle ici, vraiment, c'est... Mais je veux pas rire d'eux autres, en fait, j'aime l'île du Prince-Édouard, mais tu sais,
Est-ce que ça se peut quand même que toutes les manifestations pro-climat, etc., que cette vague-là commence à paraître en politique? Tu sais, il y avait...
Ça se peut, oui.
Les Verts, il y avait 10% avant l'élection. Mm-hmm. Là, ils tombent à 30% à l'île du Prince-Édouard.
Ouais.
Québec solidaire, on les prenait pour quantité négligeable il n'y a pas si longtemps, puis la montée qu'ils ont connue...
Tu as raison, Myriam. Il y a quelque chose qui se passe. Puis des sondages nous montrent qu'au fédéral, c'est vrai aussi. Il y a une jeunesse là, qui s'intéresse pas trop aux projets habituels de la gauche. Hein, l'interventionnisme de l'État, patati patata, ça marche moins. Mais l'écologie est au cœur de leur vie. Ils ont grandi dans un environnement où on leur dit que si on change pas nos comportements à 100%, la Terre va cesser d'exister. D'ailleurs, je trouve ça un peu malheureux, là, cette espèce d'environnement d'apocalypse là, qui a été créé par tout ça. Là, je trouve que c'était immensément exagéré. Maintenant, l'observateur politique ou l'analyste politique regarde ça et dit, ben, il y a un phénomène qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que les Verts, c'est perçu comme la gauche. Mais tout ça est en train de se redéfinir. Tu sais, gauche-droite, ça veut plus dire ce que ça voulait dire. Parce que la gauche aux États-Unis, là, qui s'appuyait, là, la gauche américaine, les démocrates, par exemple, il s'appuyait sur ceux qui votent pour Trump maintenant.
Ouais.
OK? Parce que la gauche, il y avait les votes des cols bleus. Les cols bleus, ils votent pour Trump maintenant. Puis la gauche a été récupérée par des groupes de pression qui militent en faveur de toutes sortes de droits. Les droits de je sais pas quoi, là, des transgenres, tu sais, je veux pas exagérer, mais oui, ça fait partie de l'environnement.
Il faut que tu sois marginal pour être appuyé par les démocrates.
Ouais. Puis les démocrates, essentiellement, parce que là, on s'éloigne de l'île du Prince-Édouard, mais les démocrates, eux autres, ils essaient de créer une coalition de tous ces espèces de groupes de pression, puis ils pensent qu'en faisant un bon parapluie de ça, ils vont être capables d'aller chercher la Maison-Blanche, puis le Congrès. J'en doute un peu. Maintenant, revenons à l'île du Prince-Édouard, puis au Canada. Les Verts risquent d'être un facteur, parce que Jacques Médecigne, il a beau publier des livres où il raconte qu'il a été agressé sexuellement, là. Il a beau faire des affaires comme ça, mais ça pogne pas. Tu comprends-tu? Ça pogne pas. Puis ça pogne pas au Québec, puis ça pogne pas en Ontario, puis ça pogne pas nulle part. Alors, ce vote-là, NPD, va chercher un terrain de stationnement quelque part. Normalement, ils auraient été vers les libéraux, mais les libéraux, ça va mal. Puis aujourd'hui, as-tu vu l'histoire dans le Globe and Mail, là? Écoute, ça n'a pas encore atteint le Québec, mais ça sera pas long, là.
C'est quoi?
Il y a un système centralisé au cabinet du premier ministre Trudeau où les juges qui sont nommés passent un dernier tamisage, c'est le tamisage politique.
Ils font le système des post-it qu'on a déjà vu.
Ouais, l'équivalent des post-it, mais eux autres, c'est encore plus élaboré. C'est un logiciel qui contient des tas de données. Puis on découvre quoi? 25% des juges qui ont été nommés depuis que Trudeau est là avaient contribué au Parti libéral, alors que 4% de ceux qui ont été nommés ont participé à d'autres partis. Okay. On participe au financement de d'autres partis.
Et Jody Wilson-Raybould avait reproché d'ailleurs à Justin Trudeau d'avoir nommé un juge en dépit de ses propres choix à elle.
Tout à fait. C'est un juge de la Cour suprême, là, puis ça, c'est la prérogative du premier ministre, mais c'est clair que la fuite qu'il y a dans le Globe aujourd'hui, puis que le cabinet de Trudeau n'a pas pu démentir, il est obligé de dire, ben écoutez, c'est normal qu'on vérifie les activités politiques dans le passé des candidats qu'on considère pour le poste de juge, tout ça. Mais ils ont été pris la main dans le sac, comme on dit. Je suis pas très surpris, là, sauf que ce qu'on découvre, c'est que d'abord, mettre ta main dans le feu, là, la source, c'est Wilson-Raybould, OK?
Probablement.
Qui a pu donner...
Elle passe son temps à baisser les culottes de Trudeau jusqu'à ses chevilles pour l'empêcher de courir.
J'avais pas pensé à cette image-là. Que seule Myriam Segal peut imaginer. Tire après son bas de soute. Alors, Voilà un autre petit scandale, très, très alimenté par Wilson Raybould, parce que quand tu lis l'article du Globe and Mail, tu te rends compte que Mme Wilson Raybould s'était objectée au cabinet du premier ministre parce qu'elle ne voulait pas qu'il se mêle de ça, puis elle a changé la composition des comités aviseurs. Puis elle était une sainte personne. Et encore une fois, Trudeau est en train de se faire démantibuler. Alors, où va aller ce vote-là, le vote de Jagmeet Singh? Je pense pas qu'il va aller stationner chez les libéraux. Ils vont regarder vers les verts.
Theresa May est tellement pas bonne.
Theresa May, tu veux dire Elizabeth May?
Elizabeth May. Je vais
aller
avec l'autre, mais...
Ouais, avec la Britannique. Elle est pas bien bonne, elle non plus, tu veux dire. Elizabeth May, écoute, c'est une femme intéressante. Au Québec, elle parle pas français. Puis elle est pas exactement photogénique, mettons ça de même.
Mais c'est une
diplômée, c'est une boursier Rhodes, diplômée de Oxford, grande amie personnelle de Bill Clinton, avec qui elle a été à l'université en Angleterre. Femme intelligente, militante, d'une espèce de gauche, mais sévère. Elizabeth May, elle doit arriver à 70 ans, 67, 68 ans. Elle vient de se marier, d'ailleurs. Il y avait des photos de son mariage récemment. Mais c'est un bon parking. Et ça, ça risque d'être un phénomène intéressant parce que on appelle ça le terrain de stationnement. Comme on a fait au Québec avec la vague orange. On était tannés du bloc, là. On s'est dit, c'est si fatigant, ça, envoyer du monde qui va à Ottawa pour bouder. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas prêt à voter pour les libéraux, scandale des commandites, blablabla. Les conservateurs ne nous intéressent pas. Alors, zoup, la vague orange. C'est terrain de stationnement. Je veux dire, à la prochaine élection fédérale au Québec, il n'y aura pas, d'après moi, pas un néo-démocrate qui va survivre. Alors, ce phénomène-là, faut le surveiller. Il y a quelque chose qui... ça bouillotte.
Au Québec, on pense que ça va glisser vers le Bloc québécois. D'ailleurs, tu vois les vieux du Bloc québécois qui avaient déserté qui reviennent, là.
Oui.
Dans le reste du Canada...
C'est ce que je pense aussi, en
passant. Ça risque de glisser vers les Verts. C'est pour ça que certains disaient que le cadeau de mariage d'Elizabeth May, c'était l'élection à l'île du Prince-Édouard.
Ah, ben oui, mais elle est heureuse, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, tu vas avoir le poste de chef de l'opposition dans une province qui est moins populeuse que, je sais pas moi, que le Saguenay, tiens. Dans une province qui est moins populeuse que la Mauricie, là, tu sais, c'est quand même, là. Quand tu penses, Québec pis ses environs, c'est quoi, 800 quelques mille?
Oui.
Alors là, on parle de 145 000 des habitants de l'île du Prince-Édouard. Et une société, en passant, pour terminer sur l'île du Prince-Édouard, extrêmement homogène, là. C'est comme, il y a presque pas eu d'immigration. Il y a 4 % de francophones qui est un petit groupe d'Acadiens qui a survécu. Puis le reste, là, tu comprends, c'est blanc, puis c'est anglais. Puis l'île du Prince-Édouard, je le recommande à tous ceux qui veulent adorer la nature. C'est vraiment, vraiment merveilleux.
C'est une des destinations que j'ai dans ma ligne de mire.
Ah, faut voir les fameuses plages de Cavendish, puis Stanhope, puis Rustico. C'est extraordinaire. Vraiment, les gens ne soupçonnent pas tant que tu n'as pas vu ça avec des dunes de sable immenses. Faut aller à l'île du Prince-Édouard. Mais en sachant que tu vas pas là pour faire le party, parce qu'il y a pas grand monde qui fait le party là-bas.
Ah non.
Écoute. Il y a Charlottetown, là. Charlottetown, c'est une ville de 35-40 000 habitants. Puis, pour dire le vrai, Charlottetown est une ville agréable, entre autres, parce qu'elle s'est donnée une mission universitaire, puis elle reçoit des étudiants d'un peu partout dans les maritimes, puis c'est une université très respectée. Mais à part ça, l'île du Prince-Édouard, là... Je sais pas trop quoi te dire, là, mais tu sais...
On dit qu'il y a eu les accords de Charlottetown pour ça. Pour qu'ils soient reconnus pour autre chose.
Puis c'est à Charlottetown qu'a été imaginé le Canada par les papas de la Confédération.
Merci beaucoup.
Tu l'avais oublié, hein? Myriam, une leçon d'histoire du Canada, par-là.
Je ne l'avais pas oublié, je ne le savais pas.
Ah, tu me manques, Myriam.
tu
ramènes un peu de sagesse dans mes pensées.
Salut, Luc. Merci.
Bye.
Bye. Il est 11h58.